La semaine dernière, nous avons vu qui était Jésus. Et chose incompréhensible à notre intelligence humaine, nous avons vu que Jésus est Dieu qui s'est fait homme. À la fois Dieu, à la fois homme. Pleinement Dieu et pleinement homme. Et cela ne diminue en rien la grandeur de Dieu. Bien au contraire. Parce que si Dieu s'est fait homme, si Dieu est venu jusqu'à nous, si Dieu s'est mis à notre portée, c'est justement parce que Dieu est si grand, si parfait, qu'il était pour nous totalement inaccessible, hors de notre portée. Cela souligne également que si nous pouvons avoir une relation avec Dieu, ce n'est en aucun cas parce que nous-mêmes, nous avons réussi à nous élever jusqu'à lui par nos propres efforts. Mais si nous pouvons avoir une relation avec lui, c'est uniquement parce que Dieu, dans sa grâce, vient à notre rencontre et accepte de se rendre accessible. En Jésus-Christ, Dieu est venu jusqu'à nous. Il a vécu comme un homme, il a vécu au milieu des hommes, et comme un homme, il est mort. Eh bien, ce soir, nous verrons pourquoi Jésus est mort. Mais commençons par une petite devinette. Quel point commun y a-t-il, selon vous, entre Johnny Hallyday, le pape et Madonna? C'est pas facile. Lorsqu'on les représente, en fait, ils portent tous une croix autour du cou. Beaucoup de gens, il n'y a pas que, beaucoup de gens portent autour du cou une croix, alors selon leurs moyens, ou selon ce qu'ils veulent transmettre, ça peut être en or, en bois ou en strass. Et il y a tellement de gens qui portent une croix qu'on finit par ne plus y faire attention. Mais pourtant, c'est quand même étrange si on y réfléchit un peu. C'est un peu comme si moi, qu'est-ce que vous diriez si je me promenais avec ça autour du cou? Une guillotine. Ça ferait flipper un peu, je sais pas. Mais probablement, j'espère que vous trouviez ça un petit peu étrange et peut-être même morbide de porter un instrument de mort autour du cou. Eh bien, c'est ça la croix. C'était l'instrument le plus cruel pour donner la mort, à tel point que même les Romains, qui n'étaient pas des tendres, ont fini par abolir l'exécution par la croix au IVe siècle, parce qu'ils estimaient que c'était inhumain. La croix est pourtant le symbole de la foi chrétienne, parce qu'elle nous rappelle que Jésus est mort. Je vais enlever ceci pour... La croix, la mort de Jésus, est au cœur de la foi chrétienne. Mais pourquoi Jésus est-il mort? Dans 1 Corinthiens 15, 3, il est écrit « Christ est mort pour nos péchés ». Voilà, là nous avons une réponse. Christ est mort pour nos péchés. Mais que signifie cette expression, mort pour nos péchés? Alors si je suis lucide et que je réalise ce que j'ai fait dans ma vie, et bien en même temps je réalise que mes actes ne sont pas toujours ni justes ni bons. Et ça, pour m'approcher de Dieu, c'est un véritable problème. Alors bien sûr, si je me compare, on fait tous pareil, si on se compare aux criminels dont on parle dans les journaux, si on se compare aux pires escrocs, on peut toujours se dire que ça pourrait être pire, bien pire même. Et puis qu'après tout, on ne s'en tire pas si mal. Mais comparé à Jésus et comparé aux exigences de Dieu, je suis très loin du but, très très loin. Dans Romains 3, 23, il est écrit ceci, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Voilà le cœur du problème. Tous ont péché. Tous, sans exception, nous avons péché. Alors, le péché, c'est quoi? Le péché, c'est tout ce qui, dans ma vie, rejette Dieu ou ce qui vient de Dieu. Si dans certains domaines de ma vie, je décide de vivre sans tenir compte de Dieu, je pêche. Lorsque je fais quelque chose que je sais être mal, je pêche. Et même lorsque je ne fais pas le bien que je pourrais faire, je pêche. Inutile de vous dire, évidemment, que nous sommes tous pécheurs. Eh bien, ce péché dans nos vies a de multiples conséquences graves. Nous sommes tout d'abord pollués par le péché. C'est-à-dire que le péché est quelque chose qui vient gâcher, abîmer, ternir, salir, souiller ce que nous sommes et nos relations avec les autres. Jésus nous dit en Marc chapitre 7, versets 21 et suivants, « C'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. » Alors bien sûr, on peut toujours se dire, mais moi je ne suis pas comme ça. Je n'ai rien à me reprocher. Et souvent, moi je me suis souvent dit ça. Mais essayez un petit peu d'imaginer, si un jour, il y a un film comme ça, je ne m'en souviens plus du titre, si un jour on invente un moyen technique qui est capable d'aller chercher dans notre mémoire tout ce que nous avons vécu, aussi bien nos actes que nos pensées, et s'il existe un moyen pour en faire un film. Voilà, là sur écran vont apparaître tout ce que nous avons fait, mais également toutes nos pensées. C'est nous en fait qui est sur l'écran. Est-ce que vous seriez prêt à inviter vos amis, vos voisins, vos proches, les gens que vous croisez dans la rue, à voir ce film et à découvrir ce que vous êtes vraiment à certains moments de votre vie? Probablement que non. En tout cas, moi non. Non parce que en chacun de nous, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être pour nous pesantes. Des choses, des fois, nous en avons honte. Nous sommes attristés, nous-mêmes, des cheminements de pensée que nous avons pu avoir ou des choses que nous avons faites. Eh bien ça, c'est le résultat de cette pollution que le péché amène dans nos cœurs. Une autre conséquence du péché, c'est qu'il exerce sur nous une puissante emprise. Nous savons que l'héroïne, par exemple, est une drogue dont nous sommes dépendants. Eh bien, c'est un peu la même chose avec le péché. Cela se manifeste parfois, malgré nous, lorsque nous sommes dominés par la colère, la jalousie, la médisance, le mensonge, lorsque nous sommes esclaves de certaines mauvaises habitudes. On aimerait s'en débarrasser, mais on n'y arrive pas. Jésus a dit en Jean 8, 34, « Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. » La troisième conséquence, c'est la peine encourue par notre péché. En Romains 6, 23, il est écrit « Le salaire du péché, c'est la mort. » Et cela est directement lié à une autre conséquence du péché. Notre péché nous sépare de Dieu. Notre péché, le rejet de Dieu dans nos vies, le mal qu'il y a dans nos cœurs, nous sépare de Dieu. Il y a une distance immense entre Dieu qui est parfait et nous qui sommes pécheurs. Dieu est parfaitement bon. Dieu est parfaitement juste. La Bible a un mot pour cela. Elle dit que Dieu est saint. Mais nous, nous sommes des pécheurs. Par nos pensées, par nos actes, par nos vies, au moins à un certain moment, nous avons rejeté Dieu. Et à cause de cela, ce que nous méritons, c'est la mort. Notre mort est la juste sanction pour notre péché. Et la mort dont il est question ici, ce n'est pas seulement la mort physique que nous connaîtrons tous un jour. C'est plus que cela. Il s'agit aussi de la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu pour toujours. La situation, notre situation, est donc dramatique. Mais heureusement pour nous, parce que s'il n'y avait qu'une mauvaise nouvelle, je ne serais pas là. Heureusement pour nous, Dieu nous aime. Et Dieu a préparé pour nous une solution au problème de notre péché. Une solution qui lui permet de punir le péché tout en accordant la vie éternelle aux pécheurs. Voilà ce qui est écrit en Romains 5:8. Voici comment Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Il n'est pas mort pour nous parce que nous étions des gens bien. Il est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Pour nous aider à comprendre cela, voici une histoire vraie qui s'est déroulée durant la dernière guerre mondiale. Le 31 juillet 1941 à Auschwitz, un détenu a réussi à s'enfuir. Et lorsque ça arrivait, et pour dissuader les autres de s'enfuir, qu'est-ce que faisaient les nazis? Ils prenaient au hasard 10 personnes du même bloc que celui qui s'est évadé et les exécutaient, mais pas n'importe comment. Ils les mettaient dans un endroit à part et ils allaient laisser mourir ces personnes de faim, de soif, de froid selon la saison, mais aussi de chaleur parce que là, en Pologne, l'été, il fait chaud. Et puis voilà ce qui s'est passé. Donc, le commandant passait dans les rangs pour désigner 10 personnes. Et à un moment, il désigne un homme. Et celui-ci, voilà, en étant désigné, il se met à supplier, à crier. Et il dit, mais ma femme, mes enfants. Ça, ce n'était pas de nature à attendrir. Hein, on n'est pas commandant d'un camp comme ça, si on a le cœur tendre. Mais il y avait là un homme qui n'avait pas été désigné et qui dit, moi, je vais prendre sa place. Cet homme, c'était un prêtre catholique, il s'appelait Maximilien Kolb. Et puis, il dit, voilà, cet homme a une femme et des enfants, moi je n'ai personne, prenez-moi à sa place. Et c'est ce que le commandant a accepté de faire. Au bout de 15 jours, tous les compagnons de Maximilien Kolb étaient morts, lui pas encore. Et il a fini par être achevé par une piqûre mortelle parce que ils avaient besoin de la place où il était enfermé. Et donc, il a fini par mourir. Mais l'homme qui l'a sauvé, en 1941, a réussi à survivre pendant 5 années dans le camp. Et il a été libéré en 1945. Je crois même qu'il est mort, il a une vie paisible, et il est mort en 1995. Eh bien, Maximilien Kolb a donné sa vie pour sauver la vie de cet homme. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Il a offert sa propre vie en échange de la nôtre. C'est pour cela que Jésus a connu l'agonie de la croix. Parce que Jésus était pleinement homme, mais aussi pleinement Dieu, Jésus a été parfait dans son humanité. Ça veut dire que contrairement à nous, Jésus n'a jamais péché, jamais. Il n'a jamais péché en acte, en parole ou en pensée. Jésus donc ne méritait pas de mourir. Il n'aurait même jamais dû mourir. Pourtant, Jésus est mort et ce n'était pas un accident, c'était une mort volontaire. Jésus a donné sa vie pour nous. Jésus a accepté de mourir à notre place. Jésus a accepté d'assumer à notre place la conséquence de notre péché. Jésus n'a pas donné sa vie pour nous parce que nous le méritions. Il a au contraire donné sa vie parce que nous ne méritions pas de vivre à cause de notre péché. Nous sommes des pécheurs, mais Dieu nous aime et Dieu veut nous sauver de la mort. Pour nous aider à comprendre concrètement ce que la mort de Jésus signifie, ce que sa mort signifie plus exactement pour nous, la parole de Dieu utilise différentes images. Et en voici quatre. La première image, c'est celle du tribunal. Romains 3, 23 et 24. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Par la mort de Christ, nous sommes déclarés justes devant Dieu. Nous sommes justifiés. Alors, le terme qui est utilisé est un terme judiciaire qui signifie que nous sommes acquittés et que plus aucune charge ne repose contre nous. Voici une petite histoire. Il s'agit de deux amis d'enfance. Et puis ces amis grandissent, ils se perdent de vue. Et puis un d'eux devient un escroc et l'autre devient un juge. Et puis un jour, eh bien, le juge fait son travail, il est au tribunal, et en fait, il voit que l'accusé, c'est son ami d'enfance. Cet ami qui est cher à son cœur. Et là, le juge est face à un dilemme. D'un côté, la justice, et de l'autre, l'amour. Mais le juge ne veut abandonner ni l'un ni l'autre. Alors voilà ce que le juge a fait. Parce qu'il doit être juste, c'est un juge qui est juste, eh bien, il a condamné son ami à payer une importante amende que méritait ce qu'il avait fait. Mais également parce qu'il aime son ami, après le jugement, il est allé le voir et lui a proposé de signer un chèque du montant de l'amende. Il acceptait de payer à la place de son ami. Eh bien, de la même manière, Dieu exerce sa justice et manifeste son amour. Parce qu'il est juste, il ne peut pas dire du péché, c'est rien, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Non, le mal que nous avons fait doit être puni. Mais Dieu également, dans son amour, vient à nous, dans la personne de Jésus, et nous dit « Je viens payer ta dette à ta place. Si tu le souhaites, je peux te rendre la vie. » L'autre image qui est utilisée dans la Bible, c'est celle du marché aux esclaves. Alors, dans l'Antiquité, il y avait malheureusement de très nombreuses personnes qui connaissaient l'esclavage. Et le seul moyen pour elles de devenir libres, c'était de payer la rançon que leur maître exigeait pour leur libération. Et bien sûr, ce montant était bien trop élevé pour que ces esclaves puissent racheter leur liberté par elles-mêmes. Et bien Jésus lui-même a annoncé pourquoi il est venu jusqu'à nous. Le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie en rançon pour la multitude. Matthieu 20, 28. Jésus est venu pour payer le prix de notre libération. Une autre image utilisée, c'est celle du temple. Alors, dans l'espoir d'être purifiés de leurs péchés et de recevoir le pardon de Dieu, les hommes offraient des animaux en sacrifice. Lors de la cérémonie qui se déroulait dans le temple de Jérusalem, la responsabilité de l'homme était symboliquement transféré à l'animal qui allait mourir, et ceci afin que la colère de Dieu se détourne de celui qui avait péché. Mais bien sûr, la mort de ces animaux n'était pas en mesure de purifier les hommes de leur péché. Eh bien, la mort de Jésus à notre place, elle est en mesure de nous purifier de notre péché. 1 Jean 1,7 dit ceci, « Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » Jésus est le sacrifice parfait, le sacrifice dont la valeur est suffisante pour que Dieu nous pardonne de tout péché. Quels qu'aient été nos péchés, nous pouvons être purifiés grâce au sacrifice de Jésus. Mort à notre place, mort à cause de nos péchés. La dernière image que nous verrons, c'est celle de la famille. Une famille séparée, brisée par le péché. Et la rupture n'est pas le fait de l'homme, mais le fait de l'être humain qui s'est détourné de Dieu, son Créateur. C'est l'homme qui est en faute, c'est l'homme qui a une dette envers Dieu, et pourtant, c'est Dieu qui, en Jésus-Christ, intervient afin que l'homme puisse se réconcilier avec lui. 2 Corinthiens 5,19. C'est Dieu qui, en Christ, réconciliait le monde avec lui-même, en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Dieu était en Christ. Parce que Dieu est juste, Dieu ne peut pas envoyer une autre créature, une créature innocente, afin de payer le prix de notre péché. À supposer même qu'une telle créature puisse exister, une créature qui, elle, n'aurait jamais péché, ce ne serait pas juste. Quel Dieu serait juste s'il faisait payer les fautes de quelqu'un à la place d'un autre? Aussi, Dieu a accepté de payer lui-même à notre place le prix de notre péché, afin que nous puissions nous réconcilier avec lui et que nous puissions devenir ses enfants, des enfants dont lui-même devient le Père. En Jésus-Christ, Dieu a payé le prix de notre péché à notre place. Ça, c'est un cadeau fabuleux que Dieu nous fait. C'est le cadeau de la vie éternelle. C'est le cadeau du pardon des péchés, c'est le cadeau de la réconciliation avec lui. C'est la possibilité qui nous est offerte de nous approcher de Dieu comme un père parfait. Mais pour rentrer dans la famille de Dieu, pour devenir enfant de Dieu, il nous faut de notre côté croire en Jésus et il nous faut l'accepter dans notre cœur. Un des titres donnés à Jésus dans la Bible, c'est la lumière. La lumière par laquelle Dieu nous éclaire. De son côté, Dieu nous éclaire, il nous montre le chemin qui nous conduira jusqu'à lui. Mais cette lumière, il ne faut pas seulement la voir de loin, il nous faut la recevoir dans notre cœur. Voilà ce qui est écrit en Jean 1,12. À tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Si nous reconnaissons que nous avons péché contre Dieu et que nous lui demandons pardon, si nous reconnaissons que Jésus est mort à notre place pour notre péché, l'intégralité de notre péché, la totalité de notre péché sera effacée par le sacrifice de Jésus. Nous serons réconciliés avec Dieu, nous ne serons plus ses ennemis, mais nous serons devenus ses enfants. Le verset qui sert de conclusion à cet exposé dans les livrets que vous avez reçus est Galates 2,20, qui dit ceci, « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Alors la foi, nous en parlerons davantage la prochaine fois, si vous le voulez bien, c'est-à-dire si vous revenez la semaine prochaine. Mais ce que nous retiendrons ce soir, c'est que Jésus nous a aimés et qu'il a donné sa vie pour vous, pour moi. Jésus a donné sa vie pour nous. Mais de notre côté, est-ce que nous acceptons de recevoir la vie de Jésus en nous? Parce qu'un cadeau, même un cadeau magnifique, pour en bénéficier, il faut le recevoir. Pour ceux qui aimeraient recevoir Jésus dans leur vie, j'aimerais maintenant vous proposer de prier avec moi. Et si jamais vous êtes d'accord avec cette prière, vous pourrez dire dans le secret de votre cœur, Amen. Alors, Amen, on l'entend souvent, mais Amen, c'est un mot qui signifie c'est vrai. Voilà. Lorsque quelqu'un prie, si on est d'accord avec cette prière, on dit Amen, c'est vrai. Alors bien sûr, il n'y a aucune obligation. Et peut-être que vous ne souhaitez pas prier, et c'est votre choix. Peut-être que le moment n'est pas venu pour vous, mais ce que je voudrais proposer, c'est à ceux qui le souhaitent de le faire, et pour que tout le monde soit à l'aise, je vous demande de baisser les yeux. Seigneur, je te demande de me pardonner pour mes péchés. Et de mon côté, Seigneur, je renonce au mal dont je suis conscient. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à ne plus pécher. Seigneur, s'il te plaît, viens vivre dans mon cœur. Et Seigneur, merci parce que par le sacrifice de Jésus, tu pardonnes tous mes péchés. Par la vie de Jésus, tu me rends la vie. Je veux te remercier pour cela. Amen.